Imaginons un instant une angoisse vraiment viscérale, le genre qui noue complètement l'estomac.
Ouais, la terreur pure.
Voilà, le genre de terreur qui nous tombe dessus quand on doit revoir une personne qu'on a profondément trahie. Et pas juste une petite erreur de parcours, hein. Le coup bas absolu qui détruit une famille de l'intérieur.
Ah oui, le point de non-retour, quoi.
C'est ça, 20 longues années se sont écoulées, on pourrait se dire, bon bah, le temps a fait son œuvre, la colère s'est apaisée.
Ce qui serait logique.
Sauf que voilà le détail qui glace le sang. On apprend que cette personne marche en ce moment même dans notre direction.
Et pas toute seule.
Non. Avec une milice de 400 hommes lourdement armés. C'est exactement ce scénario de cauchemar qui sert de point de départ à notre exploration d'aujourd'hui.
Et c'est une sacrée plongée qui nous attend.
Absolument. On va se baser sur les notes d'analyse du docteur Kenneth Matthews qui se penche sur les chapitres 32 et 33 du livre de la Genèse. Et notre mission aujourd'hui, c'est pas simplement de raconter une vieille histoire.
Non, c'est vraiment de décortiquer la psychologie de cette crise.
Exactement. Comment un homme qui est littéralement célèbre pour ses mensonges et ses ruses va affronter le mur de ses propres conséquences. Et comment ça va le transformer de manière radicale.
Pour bien saisir l'ampleur du truc, il faut vraiment mesurer le poids de ses 20 ans d'exil. En fait, Jacob revient vers le pays de Canaan après avoir fui la fureur de son frère jumeau, Ésaü.
Une rupture totale.
C'est le moins qu'on puisse dire. Jacob lui avait extorqué son droit d'aînesse quand Ésaü était dans un moment de faiblesse. Et après...
Il lui vole sa bénédiction.
Purement et simplement.
Ça pose le décor.
C'est clair. Et pendant 2 décennies, Jacob a vécu chez son oncle Laban. D'ailleurs, détail amusant, le trompeur a lui-même été trompé plusieurs fois là-bas.
L'ironie du sort.
Carrément. Mais le texte maintient cette tension tout du long. Est-ce que cet héritier illégitime osera remettre les pieds sur la terre promise ou non?
Et là, on y est. Le passé rattrape le présent.
La collision est inévitable.
Et ce qui est fascinant, c'est la façon dont Jacob réagit à ça. De prime abord, c'est rempli de contradictions. Sur le chemin du retour, il fait une rencontre surnaturelle, spectaculaire.
Les anges, ouais.
Voilà, il croise des anges, il appelle l'endroit Mahanaïm, ce qui veut dire « deux camps ». C'est un vrai moment de clarté spirituelle. Mais...
L'instant d'après, tout bascule.
Bah oui, la nouvelle tombe. Ésaü arrive avec 400 hommes. Et là, c'est la panique totale pour Jacob. Son premier réflexe, c'est de diviser son propre groupe, ses serviteurs, ses troupeaux, en 2 camps distincts.
C'est d'une logique mathématique et froide.
Exactement. Si Ésaü massacre le premier camp, bah, le second aura une chance de fuir.
C'est l'instinct de survie à l'état pur. En fait, il y a un contraste hyper saisissant ici. Il vient tout juste d'identifier le camp de Dieu, avec les anges, mais face à la menace de son frère, il s'en remet à une stratégie humaine ultra pragmatique.
Il retombe dans ses vieux travers.
Totalement. Il gère la crise avec ses outils habituels, le calcul, l'anticipation des pires scénarios.
Et il va encore plus loin dans le calcul, hein. Il envoie des troupeaux entiers vers Ésaü. Mais pas tout d'un coup, tu vois.
Par vagues successives.
C'est ça. Avec des espaces entre chaque vague pour créer un effet d'accumulation. Et il dit à ses serviteurs de répéter le même message à chaque fois.
De la part de ton serviteur Jacob à mon seigneur Ésaü.
Honnêtement, en lisant ça, je me suis dit que le naturel revenait au galop. L'homme est mort de peur, donc il fait ce qu'il maîtrise le mieux.
Il manipule?
Ouais. Il essaye d'acheter sa survie, un immense pot de vin, bien enrobé de flatteries pour caresser l'ego de son frère.
C'est une lecture cynique, mais elle est très courante. Et le texte joue avec cette ambiguïté? Si tu regardes le livre des Proverbes plus tard, ça conseille même d'offrir des cadeaux pour apaiser la colère d'un roi.
Donc ce serait juste une super tactique.
C'est ce qu'on pourrait croire. Mais les notes du docteur Matthews montrent un changement intérieur majeur chez Jacob. Juste avant d'envoyer ses cadeaux, Jacob prie. Et pour la première fois, c'est plus du tout une négociation.
Il ne cherche pas à marchander avec Dieu?
Non, il déclare ouvertement qu'il est indigne de la bonté qu'il a reçue. Le masque de l'homme arrogant tombe.
Il réalise que tout son argent et ses troupeaux le protègent pas.
Exactement. Et l'hébreu donne un indice clé. Le mot que Jacob utilise pour ses cadeaux, c'est « mena ».
Mena?
Ouais. Dans les 5 premiers livres de la Bible, ce mot ne veut pas juste dire « cadeau diplomatique ». Ça désigne une offrande.
Ah, un acte sacrificiel.
Voilà. Ça change tout. C'est pas un billet glissé sous la table. C'est une démarche de restitution, de repentance profonde. En appelant Ésaü « mon seigneur », il renonce verbalement au pouvoir qu'il lui a volé.
C'est fou comme la même action envoyée des chèvres et des moutons peut ressembler à la manipulation de l'extérieur, mais être une vraie expiation à l'intérieur.
C'est très subtil.
Mais le truc, c'est que cette montagne de cadeaux ne suffit pas à calmer l'angoisse de Jacob. La vraie confrontation, elle n'a pas lieu le lendemain matin avec son frère.
Elle a lieu la nuit.
Au milieu de nulle part. Il fait traverser la rivière, le gué du Jabbok, à toute sa famille, et lui, il reste tout seul sur la rive, dans le noir complet.
Cette nuit-là, c'est vraiment le pivot de sa vie. Dans cette solitude absolue, un antagoniste mystérieux apparaît. D'abord décrit juste comme un homme.
Et il s'engage dans une lutte acharnée.
Un corps à corps qui dure jusqu'à l'aube.
Toute la nuit, ouais. Et d'ailleurs, il y a une dimension littéraire incroyable dans le texte original à ce moment-là. Une sorte de jeu de mots phonétiques.
Oui, l'hébreu est magnifique ici.
Le nom de Jacob, c'est Yaakob. La rivière, c'est le Yabok. Et le verbe pour lutter, c'est Yeabek.
Jacob, Jabbok, lutter. Tout se mélange.
L'identité, le lieu, l'action violente, tout fusionne. Mais franchement, au-delà de la poésie, c'est la mécanique du combat qui me perturbe. L'antagoniste voit que Jacob ne lâche rien. Alors d'un simple effleurement, il lui déboîte la hanche.
D'un seul coup.
Ouais. Ensuite, cet être demande à partir parce que le soleil va se lever. Et Jacob, alors qu'il a la hanche démisée et qu'il doit subir le martyre, il refuse de le lâcher tant qu'il n'a pas sa bénédiction.
C'est l'obstination pure.
Mais comment un humain peut lutter physiquement contre Dieu, survivre, exiger un truc, gagner, mais repartir brisé? C'est tellement paradoxal.
Ben, le docteur Matthews explique très bien cette physique théologique, si on peut dire. C'est le concept du tampon protecteur.
Du tampon?
Ouais. Dans cette pensée-là, la présence pure de Dieu, sa gloire non filtrée, c'est fatal pour un humain. Être face à la divinité brute, c'est comme se tenir à 3 cm du soleil.
Désintégration immédiate.
C'est ça. Donc, l'apparence humaine que prend Dieu ici, c'est un filtre volontaire. Il réduit son pouvoir pour interagir avec Jacob sans le cramer sur place.
Ah, ce qui explique pourquoi ça dure toute la nuit. Dieu retient sa force exprès. S'il peut lui déboîter la hanche en le touchant à peine, il aurait pour l'écraser direct.
T'as tout compris. La victoire de Jacob, c'est pas une domination physique. C'est de l'endurance désespérée. Il gagne spirituellement parce qu'il s'accroche à Dieu, même quand son corps lâche.
Et le fait que l'antagoniste veuille partir avant l'aube, c'est parce que la nuit servait de tampon supplémentaire?
Exactement. Le jour se lève, l'obscurité disparaît. Voir le visage de Dieu en pleine lumière serait mortel. C'est ce mystère d'un Dieu qui se cache pour protéger, mais qui s'approche assez près pour transformer la personne de façon violente.
Et cette transformation, elle atteint son sommet avec une question toute simple. Juste avant la fin, l'antagoniste lui demande « Quel est ton nom ?»
Ce qui est loin d'être anodin dans cette culture.
J'imagine.
Dans le Proche-Orient ancien, le nom, c'est pas juste une étiquette. Ça encapsule l'essence, le destin. Posséder le nom de quelqu'un, c'est avoir une autorité sur lui.
Donc en le forçant à dire « Jacob », qui veut dire « le trompeur »,« l'usurpateur », c'est pas pour faire connaissance.
Non, c'est un interrogatoire, une confession forcée.
Il l'oblige à admettre à voix haute « je suis la fraude, je manipule depuis 20 ans ».
Le masque est arraché, il peut plus se cacher. Et c'est au moment exact où il avoue ça que l'antagoniste change son nom. Il l'appelle Israël.
Celui qui lutte avec Dieu.
Voilà. Et c'est énorme, parce que ce nom va définir toute une nation. Une nation qui sera jamais caractérisée par une perfection morale, tu vois, mais par cette lutte constante avec Dieu. Une propension à se débattre, mais aussi à s'accrocher.
C'est super fort. Jacob appelle d'ailleurs l'endroit Péniel, la face de Dieu, parce qu'il n'en revient pas d'avoir survécu. Puis le texte dit qu'il repart de là, mais qu'il boite.
Il en gardera la trace à vie.
Et ça m'a fait penser à nos propres cicatrices. Que ce soit un traumatisme psy, une maladie ou une grosse épreuve, ces trucs-là nous tatouent de l'intérieur.
C'est joliment dit.
La hanche déboîtée de Jacob, c'est la preuve physique de sa refonte intérieure. Il marche plus du tout comme l'arnaqueur agile d'avant. Il marche avec lourdeur, comme quelqu'un qui dépend de la grâce.
Et sa blessure devient le sceau de son authenticité. Matthews souligne même que les Israélites refuseront de manger le tendon de la hanche des animaux pendant des générations pour s'en souvenir.
Un rappel rituel de leur vulnérabilité.
C'est ça. Et c'est justement dans cet état super vulnérable, en boitant, que le nouveau Jacob, Israël, va affronter la vraie terreur, Ésaü et son armée, sous le soleil qui se lève.
Le brouillard se dissipe et bam, 400 hommes armés. Jacob organise sa famille, et on voit tout de suite ses priorités. Il met les servantes et leurs enfants devant, ensuite Léa, et tout à l'arrière pour les protéger, Rachel et Joseph.
Il expose sa vulnérabilité tout en protégeant ce qu'il a de plus précieux.
Puis s'avance tout seul et il s'incline 7 fois jusqu'à terre devant son frère.
Ça, c'est le protocole diplomatique de l'époque pour un vassal qui s'approche de son seigneur.
Il se soumet.
Oui, il matérialise son message précédent. Il rend à Ésaü l'autorité qu'il lui avait volée. Il s'en remet totalement à sa miséricorde.
Et là, la tension de 20 ans éclate de la manière la plus dingue possible. Ésaü sort pas son épée. Il court vers lui, il se jette à son cou, l'embrasse et ils se mettent tous les deux à pleurer au milieu du désert.
Magnifique. L'amertume balayée par la fraternité.
Ésaü refuse même les cadeaux au début en disant « Bouh, j'ai déjà beaucoup, garde ça pour toi ». Mais Jacob insiste et il dit une phrase incroyable. « Voir ta face, c'est comme voir la face de Dieu ».
Ah, ça c'est fondamental. Jacob fait consciemment le lien entre l'expérience terrifiante de la nuit à Péniel et ce pardon humain en plein jour.
L'un reflète l'autre.
Absolument. La grâce imméritée de Dieu dans le noir se prolonge dans le pardon d'Ésaü. Le visage du frère qui pardonne devient le miroir de la miséricorde divine.
C'est une image superbe. Mais bon, je t'avoue, en lisant la suite, j'ai eu un petit doute.
Ah oui ?
Bah oui. Juste après les larmes, Ésaü propose logiquement de faire route ensemble ou au moins de laisser des soldats pour protéger la caravane de Jacob. Et là, Jacob trouve une excuse polie. Il dit « Oh, les troupeaux sont fatigués, par devant, Ésaü part vers Séhir. » Et Jacob, lui, bifurque direct vers Soukhot, puis Sichem.
Il esquive.
Bah, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ça y est, le manipulateur est de retour. Il sourit, il rassure, et hop, il s'enfuit par la porte de derrière.
C'est vrai que vu son passif, on a vite fait de se dire ça.
C'est louche, non?
Mais le docteur Matthews propose une autre grille de lecture qui change tout. Pour lui, ce refus de l'escorte, ce pas de la lâcheté ou un mensonge, c'est l'exercice de sa nouvelle foi.
Ah bon?
Ouais. S'il accepte la milice d'Ésaü, il redevient dépendant d'une force humaine. Il redevient le vassal de son frère. Or, la leçon de la nuit au Jabbok, c'était d'apprendre à s'appuyer uniquement sur Dieu.
Ah, donc en refusant les soldats, il assume sa boîterie spirituelle.
C'est ça. Il dit en gros, j'ai plus besoin de ta protection, je suis sous une autre juridiction.
D'accord, je comprends mieux. Il sépare les deux camps de façon apaisée mais définitive. Et le fait qu'il aille à Sichem pour construire un hôtel le prouve.
Exactement. Surtout le nom qu'il donne à cet hôtel.
El Elohe Israël. Dieu, le Dieu d'Israël.
Avant ça, la relation avec Dieu, elle passait toujours par les ancêtres, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Là, en utilisant son propre nouveau nom, Jacob s'approprie l'alliance. C'est devenu sa foi personnelle.
Ce qui donne une perspective assez ironique sur toute cette histoire quand on y pense.
C'est-à-dire ?
Pendant 20 ans, Jacob croyait que son ennemi numéro 1, c'était son beau-père Laban. Puis en rentrant, il était sûr que c'était son frère Ésaü. Mais au final, sa plus grande bataille, c'était contre lui-même.
Et avec le divin ?
Ouais. Cette lutte viscérale dans le noir pour tuer le trompeur en lui et faire émerger quelqu'un capable de porter cette fameuse promesse.
D'ailleurs, le docteur Matthews conclut ses notes avec une réflexion super intéressante sur ce schéma dans la Genèse.
Lequel ?
Chaque patriarche majeur traverse une crise de désespoir absolu. Un moment où tout semble perdu, mais qui s'avère indispensable pour cimenter leur foi.
Abraham avec Isaac ?
Exactement. L'ordre de sacrifier son fils. Puis Joseph, vendu comme esclave, qui se retrouve face à ses frères. Et là, Jacob face à Ésaü. Ces ruptures sont des rites de passage obligés.
Pour passer d'une croyance théorique à une foi incarnée.
C'est tout à fait ça.
Et ça soulève une réflexion finale qu'on peut tous garder en tête. Si ce schéma est universel, si chaque grand bond en maturité exige cette fameuse nuit de lutte solitaire qui nous laisse une cicatrice, bah peut-être qu'on a tout faux aujourd'hui sur notre rapport à la vulnérabilité.
On passe notre temps à la cacher.
Masquer nos boiteries, nos traumatismes. Mais si ces failles, au lieu d'être des hontes à cacher, étaient en fait les trophées de nos plus grandes victoires intérieures.
C'est une perspective qui retourne complètement notre vision des crises.
Complètement. Les 400 hommes armés qui semblent foncer sur nous. C'est peut-être pas la fin du monde. C'est peut-être juste le décor dont on a besoin pour notre transformation la plus profonde.